Bien, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. En ce 5 avril, jour anniversaire du décret de Roosevelt qui a confisqué l'or aux Américains pour le déposer ensuite entre les mains d'une organisation privée de banque, le Federal Reserve Board, ma chronique numéro 3 va s'intituler fort logiquement Le système contre les peuples. Je commencerai comme d'habitude par l'actualité économique. Depuis quelques mois, et surtout ces dernières semaines, d'amples manipulations des stocks de monnaie de réserve et d'or ont été réalisées par les banques centrales régionales mondiales comme le Fed, Federal Reserve Board, ou la BCE, Banque Centrale Européenne. Je les appelle banques centrales régionales mondiales comme cela parce qu'elles ne sont plus nationales, elles sont devenues indépendantes des nations, des gouvernements et des peuples depuis environ 25 ans. Cela s'est traduit concrètement, en résumé, ces dernières semaines, par la vente de la moitié des stocks d'or des dites BCR en contrepartie de signes monétaires comme le dollar US, aussitôt prêté ou échangé, selon les procédures swap. Encore plus concrètement, ces ventes massives, même distillées chaque semaine, encore 4,15 tonnes de la BCE la semaine dernière, ont fait baisser le prix de l'or de près de 1000 dollars à environ 900 dollars l'once, donc moins 100 dollars l'once, donc moins 10%. En contrepartie, le dollar aurait dû monter. Il le fera progressivement à chaque échéance de 1 à 15 semaines des prêts et échanges swap contre BCR. En attendant, ces ventes de dollars en contrepartie de ventes d'or ont fait aussi baisser artificiellement le prix du dollar en euros de 0,79 à 0,73. Vous voyez l'aberration du système. Il commence, le dollar, à remonter fort logiquement au fur et à mesure des rachats de dollars par opération inverse, swap. Donc à ce jour, il oscille entre 0,74 et 0,76. L'or disparu des stocks régionaux mondiaux ces dernières semaines est allé se loger en partie au FMI et en grande partie en Suisse, sans que pour autant le franc suisse en bénéficie outre mesure. Là encore, il faut y voir la patte des grandes banques centrales mondiales qui exercent une pression insoutenable sur la petite Suisse, accusée, pour faire bon marcher le bon peuple désinformé, d'être un paradis fiscal, une vieille rengaine. Le G20 vient également de réclamer du FMI, détenteur du troisième stock d'or mondial, qu'il vende 403,3 tonnes d'or pour compléter les 1 000 milliards de dollars US destinés à la relance du système. La Chine ne détiendrait que 1% de ces 1 000 milliards de dollars de réserves de change à elle sous forme d'or et pourrait donc les lui racheter. Si toutefois, le Sénat américain donne le feu vert au FMI car la USA il dispose de 17% des droits de vote. Bref, l'actualité est centrée en ce moment sur la nécessité évidente pourtant de réformer les mauvaises habitudes monétaires mondiales depuis 30 ans ou 40 ans. Et la Russie, écartée des sommets officiels pour l'essentiel, soutient que l'or devrait reprendre une place dans les règlements inter-BCR, Banque Centrale Régionale Mondiale, en contrepartie des échanges commerciaux. Elle a bien raison. Mais on voit aussi que tout le monde est contre. Et pour cause. Ce qui m'amène à vous suggérer mon conseil patrimonial du jour, si vous avez des hésitations sur la localisation de votre capital, de votre épargne, cela m'amène à vous conseiller de vous constituer une mallette de billets en francs suisses, en dollars US, en yens et en livres sterling. Ces quatre monnaies mondiales de réserve ont des cours qui s'annulent depuis 30 ans, à peu près. Complété de quelques pièces d'or et d'argent de qualité certifiée par un vrai professionnel, très très bon état plus, si possible qualité supérieure, voire fleur de coin, car il y a beaucoup de pièces ou usées ou fausses. La réinsertion de l'or dans les contreparties monétaires centrales ne pourrait que conduire à une énorme réévaluation de son prix, très inférieur aujourd'hui à ce qu'il doit être pour retrouver un usage monétaire mondial. Vous pourrez vous référer au fameux livre de Jacques Rueff des années 60, Le péché monétaire de l'Occident. Il y a donc 40 ans, l'once d'or à 400 dollars, au lieu de 100, officiellement à l'époque, aurait permis de resolvabiliser tout le système des règlements mondiaux. De nos jours, il faudrait au moins la fixer à 3 000 $, comme l'affirmait il y a peu un soutien de la famille Bush, le fameux et très médiatique Forbes, qui est très bien placé pour le dire. Mais cela ne se fera sans doute qu'après que le gouvernement mondial aura été institutionnalisé. D'ici là, les manipulations vont continuer. En tout cas, fuyez comme la peste les dépôts en banque en CSL, compte sur livret. Rappelez-vous que la mauvaise monnaie bancaire, scripturale et maintenant électronique a chassé la bonne, la monnaie officielle dans vos porte-monnaies, qui elle-même, par sa dérive, a chassé l'or et l'argent au profit du papier et de jetons sans grande valeur en guise de pièces. Notez bien aussi que les banques sont incapables de vous remettre un vrai chèque de banque depuis plus de 20 ans, mais qu'elles vous font payer leur chèque de caisse, comme avant un vrai chèque de banque, tiré sur leur compte, ouvert chez la Banque des Banques, la Banque de France. Tout est virtuel et faux dans l'euro mondialo système actuel, lequel a inventé en 1996, j'insiste sur la date, la plus formidable fausse monnaie jamais mise en circulation depuis 3500 ans d'histoire monétaire, l'euro. Ce qui m'amène à rappeler dans mon troisième épisode mon histoire de la monnaie, avec sa devise générique progressivement mise en lumière et vérifiée au fil des chapitres, Errare humanum est, perseverare diabolico. Le titre de ce chapitre, dévaluation et réévaluation. En cette fin de XXe siècle et début de XXIe siècle, après la naissance de Jésus-Christ, on a prétendu copier le dollar US en créant l'euro. On en espérait, semble-t-il, comme on l'espérerait d'un talisman, qu'il apporte la même prospérité que le dollar l'aurait apporté aux USA. On nage en pleine métaphysique. En réalité, l'obscur gouvernement mondial de quelques comités réunis à huis clos a décidé depuis 1992 de régionaliser le monde entier afin d'y diminuer la quantité de monnaie en circulation. De monnaie au pluriel. Au passage, l'euro a imposé une réévaluation plus ou moins importante des signes monétaires en termes de pouvoir d'achat nominaux locaux à l'intérieur de la zone euro. Certaines réévaluations locales, comme en Italie, ont été, disons-le, invivables pour le peuple. 1766 fois. Le choc d'un centime d'euro remplaçant 1766 lire italienne a forcément poussé à l'inflation des prix. Donc, à une perte de pouvoir d'achat économique qui est allée d'importante en Allemagne à épouvantable en Italie, suivant les pays. La réévaluation monétaire s'est accompagnée d'une dévaluation du pouvoir d'achat de ces mêmes signes monétaires. Comme dans les années 30, les loyers ont dérapé de 85% en 10 ans. Les retraites des vieux sont devenues plus maigres encore que dans la chanson « La tarie des guêpes ». Et tout cela pour fourrer de force une monnaie de papier coloré et même d'électrons dans les poches des gens qui ne peuvent plus rien vérifier par eux-mêmes. Un certain Philippe Bouvard, humoriste, stigmatisa il y a des années dans le Figaro magazine le fait qu'il ne pouvait plus ni voir ni toucher son argent. Au moins, Massilia et Rosas employaient-elles du bon or, de bon aloi pour leur copie, ce qui garantissait les porteurs, indifférents au dessin, mais attentifs au poids, pesable et à la pureté visible. Réalité concrète dont nos contemporains sont privés au profit de chimères, en fait de véritables cauchemars où la vie devient invivable, le travail est impayé, le revenu est amaigri, les dépenses incompressibles deviennent impayables, loyer, nourriture, etc. Les peuples sont devenus des esclaves du système monétaire et financier depuis 1933. Les Gaulois, nos ancêtres dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, copièrent, eux, sans aucun scrupule, les statères de Philippe de Macédoine avec du bon or, cependant. Quant aux Romains, c'est vers moins 300 avant Jésus-Christ qu'ils frappèrent de véritables pièces, pesant une livre, à l'époque fixée à 275 grammes, et valant donc un as romain divisé en 12 parties appelées uncia, laquelle devint once, en plus 1138, puis uns, once, et enfin once de nos jours, de chacune 22,92 grammes avec du bon argent, de bon aloi. Mais les guerres de tout temps épuisent les monnaies que les gouvernants n'ont dès lors plus d'autre choix que de dévaluer, soit en diminuant le poids des pièces à nominal identique, soit en dopant les pièces avec du métal vil. Nous retrouvons donc en moins 52, bataille finale d'Alésia, la livre réévaluée à 380 grammes, mais divisée cette fois en 12 as, de 12 onces, de chacune, de 2,64 grammes. La livre était donc réévaluée, mais les as et les onces dévaluées. L'as se retrouvant sous multiple de la livre au 12e du nominal ancien, même si, histoire sans doute de faire avaler la pilule, l'as pesait dès lors 31 667 grammes, donc une nouvelle uncia un peu plus lourde que l'ancienne, pour ceux que cela pouvait consoler. En plus de 117, nouvelle dévaluation-réévaluation. La livre est réévaluée à 453 grammes, mais devenue ainsi encore plus lourde, elle est découpée en 16 as de chacun 28 349 grammes. Notons au passage que cette valeur fait toujours référence de nos jours, comme nous le verrons en détail dans les prochains chapitres. Le dit as ne vaut plus alors, en 217, que le 16e d'une livre, lui qui 5 siècles plus tôt lui était égal, même si elle était tout de même moitié moins lourde. Disons donc net, le 8e. Bref, en 500 ans, l'as s'est dévalué de moins 89,69%, soit de moins 0,18% par an. Dévaluation somme toute très raisonnable quand on connaît nos inflations galopantes du XXe siècle. En plus, 268 est alors inventé le denier, qui équivaut alors à une livre, mais celle-ci est alors dévaluée à 283,49 grammes et se divise donc en 10 nouveaux as de toujours 28,349 grammes, conservés à l'identique depuis jusqu'à nos jours. Sans doute une sorte de réforme idéologique gauchiste de l'époque qui invente à ce moment le système décimal, lequel fut imposé, comme chacun devrait le savoir, par la Révolution en France, sous peine de sanctions pénales. Quand l'abstraction enferme les gens dans le virtuel imposé par la force, c'est que les réalités naturelles sont violées. Le retour de bâton de la loi naturelle est dès lors salutaire. Quand les banques de nos jours font faillite, ce n'est pas une crise, mais au contraire un bienfait naturel, le salut du peuple. Comme par hasard, nos gouvernements secourent le système bancaire au détriment du peuple en luttant contre la loi naturelle au mépris des fondamentaux de la politique. Nous verrons donc dans le chapitre suivant de mon histoire de la monnaie la prochaine fois comment on impose une monnaie unique. Mesdames, messieurs, j'ai été un peu plus long que mes deux précédentes chroniques, mais j'espère que vous jugerez comme moi que c'était très important. Merci de votre attention.